Guerre et paix, troisième partie, chapitre 2, scène 33. Le 3 septembre, Pierre se leva tard. Il avait mal à la tête. Ses habits, qu'il n'avait pas quittés, lui pesaient sur le corps, et il sentait confusément qu'il avait commis la veille un acte honteux. Cet acte honteux était son épanchement avec le capitaine Rambal. La pendule marquait 11 heures. Le temps était sombre au dehors. Il se leva, se frotta les yeux, et, apercevant le pistolet que Guérassim avait remis sur le bureau, il se rappela enfin où il se trouvait et ce qui devait avoir lieu ce jour-là.
Ne suis-je pas en retard ?
Pensa-t-il.
Non, car il ne fera probablement son entrée qu'à midi.
Pierre ne se donnait même pas le loisir de penser à ce qu'il avait à faire. Il se dépêchait d'agir. Il donna un léger coup de main à ses vêtements, saisit le pistolet, et il se disposait à sortir lorsque, pour la première fois, il se demanda comment il cacherait l'arme. Il ne pouvait la mettre dans sa ceinture, ni la tenir sous le bras, ni la déguiser dans les plis de son large cafetan. Enfin, il avait oublié de la charger.
« Dans ce cas, un poignard fera mieux l'affaire. »
se dit-il, bien qu'il eût plus d'une fois blâmé l'étudiant allemand qui, en 1809, avait tenté de poignarder Napoléon. Alors, il prit le poignard qu'il avait acheté en même temps que le pistolet, quoiqu'il fût tout ébréché, et le glissa sous son gilet. On aurait dit qu'il avait hâte, non d'exécuter son projet, mais de se prouver à lui-même qu'il n'y avait pas renoncé. Serrant ensuite sa ceinture autour de lui, enfonçant son bonnet sur ses yeux, il traversa le corridor en s'efforçant de ne pas faire de bruit et descendit dans la rue sans avoir à rencontrer le capitaine. L'incendie, qui la veille l'avait laissé si indifférent, s'était rapidement étendu pendant la nuit. Moscou brûlait sur plusieurs points à la fois. Le Gotsinoï Dvor, la Povraskaya, les barques sur la rivière, les chantiers de bois du pont de Dorogomilov étaient en flammes. Pierre se dirigeait par la Bratskaya vers l'église de Saint-Nicolas. C'était l'endroit où, depuis longtemps, il s'était promis d'accomplir le grand acte qu'il préméditait. La plupart des maisons avaient leurs fenêtres et leurs portes fermées et clouées. Les rues et les ruelles étaient désertes. L'air était imprégné d'une odeur de brûlé et de fumée. De temps à autre, on rencontrait quelques Russes, inquiets et effarés, et des Français, à tournure soldatesque, qui marchaient au milieu de la chaussée. Les uns et les autres regardaient Pierre avec curiosité. Sa carrure et sa haute taille, l'expression souffrante et concentrée de sa figure, les intriguaient, et les Russes eux-mêmes l'examinaient attentivement sans parvenir à comprendre à quelle classe de la société il appartenait. Les Français, habitués à être un objet d'étonnement ou de frayeur pour les indigènes, le suivaient gaiement avec des yeux surpris, car ils ne faisaient aucune attention à eux. Devant la porte cochère d'une grande maison, trois de ces derniers, qui s'ingéniaient à s'expliquer avec des Russes sans parvenir à se faire comprendre, l'arrêtèrent pour lui demander s'il parlait français. Il secoua négativement la tête et poursuivit son chemin. Plus loin, une sentinelle, qui veillait sur un caisson, l'interpella, et ce fut seulement à un second
« Au large !»
crié d'une voix menaçante et au bruit du fusil que le soldat armait, que Pierre comprit la nécessité de passer de l'autre côté de la rue. Tout entier à son sinistre projet et à la crainte de le perdre de vue, comme il avait fait la nuit précédente, il ne voyait ni ne comprenait rien. Mais cette sombre détermination n'était pas destinée à aboutir. Alors même qu'il n'en aurait pas été empêché en chemin, l'exécution de son plan était devenue impossible par la raison toute simple que Napoléon était déjà depuis quelques heures dans le palais impérial du Kremlin. À ce même moment, assis dans le cabinet du tsar, et de fort méchante humeur, il donnait des ordres et prenait des mesures pour arrêter l'incendie, le pillage et rassurer les habitants. Pierre ignorait ce fait. Absorbé par son idée fixe et préoccupé, comme tous les entêtés qui entreprennent une chose impossible, il se tourmentait, non des difficultés d'exécution, mais de la défaillance qui, en s'emparant de lui au moment décisif, paralyserait son action et lui enlèverait toute estime de lui-même. Il continuait néanmoins d'instinct sa route sans regarder devant lui, et il arriva ainsi tout droit à la Povarskaya. Plus il avançait, plus la fumée devenait épaisse. Il commençait à sentir la chaleur de l'incendie, dont les langues de feu s'élançaient au-dessus des maisons voisines. Les rues se remplissaient d'une foule agitée. Pierre commençait à comprendre qu'il se passait autour de lui quelque chose d'extraordinaire, mais il ne se rendait pas compte encore du véritable état des choses. Tout en suivant un chemin battu à travers une grande place déserte, qui touchait d'un côté à la Povarskaya et longeait de l'autre les jardins d'un riche propriétaire, il entendit tout à coup à ses côtés le cri désespéré d'une femme. Il s'arrêta comme s'il sortait d'un songe et leva la tête. À quelques pas de lui, tout le mobilier d'une maison, des édredons, des samovars, des caisses de toutes sortes, s'entassaient en désordre sur l'herbe desséchée et poudreuse. Accroupie à côté des caisses, une jeune femme maigre, avec de longues dents proéminentes, enveloppée d'un manteau noir, à la tête couverte d'un mauvais bonnet, se lamentait en pleurant à chaudes larmes. Deux petites filles de 10 ou 12 ans, pâles et terrifiées comme elles, vêtues de misérables jupons et de manteaux à l'avenant, regardaient leur mère avec stupeur, tandis qu'un petit garçon de 7 ans, coiffé d'une casquette beaucoup trop grande pour lui, pleurait dans les bras de sa vieille bonne. Une fille de service, apparemment, nu-pied et malpropre, assise sur une des caisses, avait défait sa tresse d'un blond sale, et elle arrachait par poignées les cheveux roussis. Un homme aux larges épaules, avec des favoris arrondis, des mèches de cheveux soigneusement lissées sur les tempes et un petit uniforme de fonctionnaire civil, s'occupait d'un air impassible à chercher des vêtements au milieu de tout ce fouillis. En le voyant passer près d'elle, la femme se précipita aux genoux de Pierre.
« Oh, mon père! Oh, fidèle chrétien orthodoxe! Sauvez-moi! Aidez-moi !»
disait-elle à travers ses sanglots.
« Ma fille, ma dernière petite fille, a été brûlée. Oh, mon Dieu! Est-ce pour cela que je t'ai chérie? Que je t'ai...
Oh. »« Assez, assez, Marie Nikolaïevna !»
lui dit son mari d'un ton calme. Il semblait tenir à se justifier devant l'étranger.
« Notre sœur l'aura sans doute emporté, c'est sûr. »«
Monstre, cœur de pierre !»
s'écria la femme avec colère en cessant de pleurer. « Tu n'as même pas un cœur pour ton enfant. Un autre l'aurait retiré des flammes. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un père. De grâce !» continua-t-elle en se tournant vers Pierre.
« Écoutez-moi. Le feu a passé chez nous, de la maison voisine. Cette fille, que voilà, s'est écriée. Ça brûle !» On a couru pour emporter tout ce qu'on pouvait. On est parti avec tout ce qu'on avait sur le dos. Il n'y a que ce que vous voyez de sauvé. Cette image est notre lit de noces. Tout le reste a péri. Tout à coup, je m'aperçois que Katia n'est plus là. Oh, mon enfant ! Mon enfant qui a été brûlé !
« Mais où donc est-elle restée ?»
demanda Pierre, et l'expression sympathique de sa figure fit comprendre à la femme qu'elle avait trouvé en lui aide et secours.
« Oh, mon Dieu, mon Dieu !» reprit la mère. « Sois mon bienfaiteur. Aniska, va, petite misérable, montre-lui le chemin, »
dit-elle en ouvrant sa grande bouche et en montrant ses longues dents.
« Viens, viens, je ferai mon possible, »
dit Pierre en se hâtant. La petite domestique sortit de derrière la caisse, arrangea ses cheveux, soupira et prit par le sentier. Pierre, tout prêt à l'action, se sentit réveillé comme après une longue léthargie. Il releva la tête ses yeux brillaient, et il suivit à grands pas la jeune fille qui le conduisait à la Povarskaya. Les maisons se dérobaient derrière un nuage de fumée noire que perçaient de temps en temps des gerbes de feu. Une foule énorme se pressait autour de l'incendie. Un général français se tenait au milieu de la rue et parlait à ceux qui l'entouraient. Pierre, guidé par la petite domestique, s'en approcha, mais les soldats l'arrêtèrent.
« On ne passe pas !»«
Ici, ici, petit oncle !» s'écria la fillette. « Nous traverserons la ruelle. Venez !»
Pierre se retourna en faisant de grandes enjambées pour la rejoindre. Elle prit à gauche, dépassa trois maisons et entra par la porte cochère de la quatrième.
« C'est ici, là, tout près !»
Traversant la cour, elle ouvrit une petite porte et, s'arrêtant sur le seuil, elle lui indiqua une maisonnette qui était tout en flammes. Une muraille s'était déjà effondrée, l'autre brûlait encore, et le feu s'élançait par toutes les ouvertures, par les fenêtres, par le toit. Pierre s'arrêta involontairement, suffoqué par la chaleur.
« Laquelle de ces maisons est la vôtre ?»«
Celle-là, celle-là !» hurla l'enfant. « C'est là que nous demeurions. Et tu es brûlée, notre trésor adoré. Katia, mademoiselle bien-aimée !»
recommença à crier Aniska, se croyant obligée, à la vue de l'incendie, de faire preuve de sentiment. Pierre se rapprocha du brasier, mais la chaleur le repoussa. Il fit quelques pas en arrière et se trouva en face d'une maison plus grande, dont le toit flambait d'un seul côté. Quelques Français s'agitaient alentour. Il ne devina pas tout d'abord ce qu'il faisait là. Néanmoins, apercevant l'un d'eux qui frappait un paysan du plat de son sabre pour lui arracher une pelisse de renard, il comprit qu'il pillait. Mais cette pensée ne fit que traverser son esprit. Le craquement des murailles et des plafonds qui s'écroulaient, le sifflement des flammes, les cris de la foule, les noirs tourbillons de fumée traversés par des pluies d'étincelles et des gerbes de feu qui semblaient lécher les murs, la sensation d'asphyxie et de chaleur, la rapidité des mouvements qu'il était obligé de faire, tout provoqua chez Pierre la surexcitation que font éprouver habituellement ces désastres. L'effet fut sur lui si violent qu'il se sentit aussitôt délivré des pensées dont il était obsédé. Jeune, résolu et alerte, il fit le tour de la petite maison qui brûlait. Au moment d'y entrer, il fut arrêté par des cris suivis d'un craquement et de la chute de quelque chose de lourd qui tomba avec bruit à ses pieds. Il leva les yeux et vit des Français qui venaient de jeter par la fenêtre une commode remplie d'objets en métal. Leurs camarades, qui se tenaient dans la cour, s'en approchèrent aussitôt.
« Eh bien, qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? »
s'écria l'un d'eux avec colère.
« Il y a un enfant dans cette maison !»
dit Pierre.
« N'avez-vous pas vu un enfant ?»«
Qu'est-ce qu'il chante donc ? Va te promener !»
crièrent plusieurs voix, et l'un des soldats, craignant que Pierre ne lui enlevât sa part de l'argenterie et des bronzes qui étaient dans la commode, s'avança d'un air menaçant.
« Un enfant ?»
s'écria un Français de l'étage supérieur.
« J'ai entendu piailler dans le jardin. C'est peut-être son moutard à ce bonhomme. Faut être humain, voyez-vous. »«
Où est-il ? Où est-il ? »
demandait Pierre.
« Par ici, par ici !»
répondit le Français en lui indiquant le jardin derrière la maison.
« Attendez, je vais descendre. »
En effet, une seconde plus tard, un Français en bras de chemise sauta par la fenêtre du rez-de-chaussée, donna à Pierre une tape sur l'épaule et courut avec lui au jardin.
« Dépêchez-vous, vous autres »
cria-t-il à ses camarades.
« Il commence à faire chaud !»
Et, s'élançant dans l'allée sablée, il tira Pierre par la manche et lui montra un paquet posé sur un banc. C'était une petite fille de 3 ans, en robe de péracle rose.
« Voilà votre moutard, une petite fille, tant mieux. Au revoir, mon gros, faut être humain, nous sommes tous mortels, voyez-vous. »
Et le Français rejoignit ses compagnons. Pierre, essoufflé, allait saisir l'enfant lorsque la petite, aussi pâle et aussi laide que sa mère, poussa un cri désespéré à sa vue et s'enfuit. Pierre la rattrapa et la prit dans ses bras pendant qu'elle hurlait avec colère et essayait, avec ses petites mains, de s'arracher de l'étreinte de Pierre, qu'elle mordait à belles dents. Cet attouchement, qui ressemblait à celui d'un petit animal, lui causa une telle répulsion qu'il fut obligé de se dominer pour ne pas jeter là l'enfant. Et reprenant sa course vers la maison, il se trouva tout à coup dans l'impossibilité de suivre le même chemin. Aniska avait disparu, et, partagé entre le dégoût et la compassion, il se vit contraint, tout en serrant contre lui la petite fille qui continuait à se débattre comme un beau diable, de traverser de nouveau le jardin et de chercher une autre issue.